Conflits sociaux et révolutions. Ce conflit entre les forces productives et le mode de commerce, qui, on l'a vu, s'est déjà manifesté à plusieurs reprises dans l'histoire passée, sans pour autant en mettre en péril les fondements, devait chaque fois éclater dans une révolution, tout en revêtant une variété de formes secondaires, comme totalité de heurts, comme heurts de différentes classes, comme conflit de la conscience, combat d'idées, etc., combat politique, etc. D'un point de vue borné, on peut alors détacher un de ces phénomènes secondaires et le considérer comme la base de ces révolutions. Ce qui est d'autant plus facile que les individus qui prenaient l'initiative des révolutions se faisaient eux-mêmes des illusions sur leur propre activité, selon leur degré de culture et le palier de l'évolution historique. Tous les heurts de l'histoire ont donc, d'après notre conception, leur origine dans le conflit des forces productives et du mode de commerce. Au demeurant, pour conduire à des heurts dans un pays, il n'est pas nécessaire que ce conflit soit poussé à bout dans ce pays même. La concurrence avec des pays où l'industrie est plus développée, par suite d'une extension du commerce international, suffit pour produire un conflit analogue même dans les pays où l'industrie est moins développée. Note de bas de page. En Allemagne, par exemple, le prolétariat en puissance fait son apparition par suite de la concurrence de l'industrie anglaise. Fin de la note de bas de page. Tout en les rassemblant, la concurrence isole les individus les uns des autres. Non seulement les bourgeois, mais davantage encore les prolétaires. C'est pourquoi un temps assez long s'écoule avant que ces individus puissent s'unir. Sans parler du fait que, pour ne pas rester purement local, cette union nécessite la création préalable, par la grande industrie, des moyens indispensables, tels que les grands centres industriels et les voies de communication rapides et bon marché. C'est pourquoi il faut de longs combats pour vaincre tout pouvoir organisé en face de ces individus isolés et vivant dans des conditions qui produisent chaque jour à nouveau l'isolement. Vouloir le contraire reviendrait à exiger que la concurrence cesse d'exister dans la présente phase de l'histoire ou que les individus chassent de leur esprit des conditions dont ils ne sont pas les maîtres, eux qui sont isolés. Habitat. Chez les primitifs, il va de soi que chaque famille possède sa propre caverne ou cabane, comme chaque famille, chez les nomades, possède séparément sa tente. Cette économie domestique isolée est encore rendue plus nécessaire par le développement ultérieur de la propriété privée. Chez les peuples agriculteurs, l'économie domestique commune est tout aussi impossible que l'exploitation commune du sol. L'apparition de la ville représente un grand progrès. Cependant, dans toutes les périodes passées, la suppression de l'économie isolée, inséparable de la suppression de la propriété privée, était impossible tout simplement parce que les conditions matérielles faisaient défaut. L'organisation d'une économie domestique commune présuppose le développement du machinisme, l'utilisation des forces naturelles et de nombreuses autres forces productives, par exemple les canalisations, l'éclairage au gaz, le chauffage à la vapeur, etc. Fin de l'opposition entre la ville et la campagne. Sans ces conditions, l'économie sociale ne pourrait pas être elle-même une nouvelle force productive. Elle manquerait de toute base matérielle et reposerait sur une base purement théorique. Bref, elle serait une simple marotte, et elle aboutirait tout au plus à l'économie monastique. Les possibilités qui s'offraient ainsi apparaissent quand on se rassemble dans les villes et quand on construit des maisons communes à des fins bien déterminées. Entre parenthèses, prisons, casernes, etc. Il va de soi que disparition de l'économie isolée et disparition de la famille sont inséparables.